Bonsoir. Deux morts, cinq blessés, dont trois graves, dans une attaque au couteau ce matin dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. L'agresseur, un ressortissant soudanais de 33 ans, inconnu des services de police, a frappé au hasard dans une rue et deux commerces du centre-ville. Le ministre de l'Intérieur évoque un parcours terroriste, mais pour l'instant, c'est la police judiciaire qui est saisie de l'enquête. Dans la crise du coronavirus, faut-il ou non porter un masque? Les autorités sanitaires désormais le recommandent, sous réserve de continuer à respecter les gestes barrières, qui sont seuls à même de nous protéger vraiment contre le virus. Sur les routes, rien à signaler pour ce premier week-end des vacances de Pâques. Les consignes de ne pas partir ont été globalement respectées, sachant bien sûr que les contrôles avaient été renforcés et qu'ils se poursuivront dans les jours qui viennent. Dans ce journal également, l'appel de l'Agence nationale de sécurité sanitaire à ne pas utiliser n'importe comment les produits désinfectants. L'inquiétude dans les maisons de retraite en Espagne où la mortalité explose. Le championnat de Ligue 1 de football connaîtra-t-il une conclusion rien de moins sûre? C'est le virus qui en décidera, répondent les clubs à l'UEFA. Les Français qui prennent goût à la lecture en ligne, la tendance était déjà forte, elle l'est bien sûr de plus en plus, comme l'a constaté Christine Siméone dans sa vie connectée. Et puis, la météo, malheureusement, dans ce contexte, c'est un temps de printemps que nous annoncera Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Un parcours terroriste, c'est la formule utilisée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour décrire les événements survenus à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Bien que le parquet antiterroriste ne se soit pas encore saisi, deux personnes ont été tuées, cinq autres blessées dans la rue et dans deux commerces de Romans par un homme manifestement très déterminé. On va y revenir en plein confinement. En tout cas, c'est un drame qui rajoute encore à l'anxiété générale, comme l'a confié à Cécilia Arbona, Sandrine Naudet, opticienne, porte-parole des commerçants du centre-ville, alertée ce matin par les sirènes.
On échange, on est tous sous le choc, puis on compatit à la douleur parce que l'un de nos commerçants est décédé suite à l'attaque. C'est lui rendre un café, il était simplement en train de prendre l'air avec sa compagne et son fils. C'est un contexte qui est très anxiogène pour tout le monde en ce moment et je pense qu'aucun de nous pouvait imaginer une scène comme celle-ci.
Et la victime dont parle la porte-parole des commerçants est l'un des gérants du café-théâtre La Charrette, un lieu connu à Romans. L'attaque a duré une dizaine de minutes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place, a donc évoqué un parcours terroriste. En tout cas, c'est un homme qui a fait preuve d'une grande détermination, qui a donc tué ce matin deux personnes et en a blessé cinq, dont trois gravement, Ariane Gressel.
Oui, il s'agit d'un ressortissant soudanais de 33 ans, selon les documents d'identité qu'il a présentés. Un peu avant 11h, l'homme s'est d'abord rendu chez un buraliste du centre-ville où il a asséné les premiers coups de couteau, blessé le couple de gérants avant de poursuivre son chemin. Il est ensuite allé dans une boucherie. Là, selon le témoignage du commerçant, il s'est saisi d'un autre couteau, a mortellement frappé un client dans la boutique, puis poursuivi son parcours meurtrier, frappant les personnes qui croisaient son chemin et tuant une deuxième victime. C'est l'arrivée d'une patrouille de police au bout de quelques minutes qui a mis fin à cette attaque. À l'approche des policiers, l'homme s'est agenouillé, a commencé à murmurer des propos inaudibles avant d'être interpellé. Bilan donc deux morts, cinq blessés, dont trois dans un état jugé grave. Une centaine de policiers a été mobilisée, ainsi que 45 pompiers.
Alors que sait-on plus précisément de l'agresseur ce soir? Il n'était pas connu des services de police.
Non, c'est un homme qui avait le statut de réfugié en France depuis 2017. Encore une fois, si l'on tient compte des documents qu'il a montrés, son colocataire a lui aussi été interpellé. Il s'agit de l'entendre pour essayer d'en savoir plus sur la personnalité de l'auteur de ces coups de couteau. Le domicile de l'assaillant a été perquisitionné. Pour l'instant, rien n'a été trouvé qui permette de dire qu'il était en lien avec une organisation terroriste. On en est au tout début des recherches. Enquête confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon. Le parquet national antiterroriste continue d'évaluer la situation en lien avec le parquet de Valence pour voir si la piste d'une attaque terroriste doit être étudiée de plus près.
Ariane Gressel, toute la lumière sera faite sur cet acte odieux, a tweeté Emmanuel Macron. Parmi les réactions politiques de l'après-midi, de tous côtés, des pensées émues pour les victimes et leurs familles, le dégoût d'Olivier Faure, secrétaire national du PS, dégoût pour les lâches qui tuent en pensant se sauver, la colère froide du député La France Insoumise, Adrien Quatennens, qui salue les fonctionnaires ayant arrêté l'assaillant, et puis l'interpellation du gouvernement par Marine Le Pen, qui demande au gouvernement de cesser de vider les prisons et les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Des drames surviendront, ajoute la présidente du Rassemblement national, si cette politique irresponsable continue. des températures du mois de mai. Dommage, ce n'est pas ce week-end encore qu'on profitera du beau temps. Ou alors à la fenêtre, le confinement reste plus que jamais de rigueur. Les balades et les départs en vacances totalement proscrits. Et les contrôles ont été renforcés. Peu d'automobilistes auront, en tout cas ce jour, bravé l'interdiction, comme l'a constaté Jean-Daniel Montet-Jourdran, directeur de cabinet du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est au téléphone de Mathilde Imberti.
Les choses se sont globalement très bien passées. Les gens étaient compréhensifs sur l'intérêt du contrôle, hein, qui était de s'assurer, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur, qu'il n'y ait pas de déplacement lié au départ en week-end ou en congé pour ce qui concerne les Parisiens. Les gens qu'on voyait passer étaient essentiellement de la région et même du département ou des départements limitrophes, je dirais. Les quelques personnes qui venaient de Paris avaient de bons motifs de se déplacer. Il y a eu des verbalisations, hein, hier comme ce matin, essentiellement des primo-verbalisations, c'est-à-dire avec une amende de 135 euros pour les gens qui n'avaient pas leurs attestations ou un motif valable. Je précise en revanche que s'il y avait plusieurs personnes adultes dans le véhicule qui n'avaient pas leurs attestations, chaque adulte était verbalisé. Et de la même façon, une personne peut être verbalisée plusieurs fois si elle n'a pas fait demi-tour, hein, et dans ce cas-là, c'est cumulatif.
Le gouvernement a prévenu, les contrôles se poursuivront dans la nuit et demain, dimanche, toute la journée sur les routes et les lieux de vacances, où d'ailleurs la plupart des locations touristiques ont été interdites, notamment sur le littoral de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Plus de 400 000 contraventions liées au confinement ont été dressées depuis le 16 mars, alors pourquoi ne pas les reverser aux soignants? C'est la proposition d'un sénateur UDI de Haute-Savoie, Loïc Hervé, qui dit avoir bon espoir d'être entendu, car cet argent existe, dit-il. Il ne privera personne et donnera un argument de plus aux forces de l'ordre quand elles dressent un procès verbal. En attendant, c'est l'enveloppe pour l'hébergement et l'aide d'urgence aux sans-abri qui a été augmentée pour atteindre désormais les 65 millions. Selon le gouvernement, plus de 170 000 SDF sont hébergés ce soir avec la mobilisation de près de 8 000 places d'hôtel supplémentaires. Le gouvernement qui a aussi répondu aux inquiétudes exprimé par le milieu associatif et médical concernant les handicapés mentaux. Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, pas question qu'un handicap de cette nature puisse constituer un frein à l'admission en réanimation. Au contraire, de nouvelles mesures seront mises en œuvre pour que les centres 15 puissent prendre en compte les fragilités propres aux handicapés, dont on ne sait pas encore combien sont concernés par l'épidémie. Sophie Bécherel.
Le décompte des personnes handicapées infectées par le coronavirus n'est pas à ce jour connu. Le ministre de la Santé affirme être en train de faire remonter les chiffres, comme pour les EHPAD. Olivier Véran n'a pas non plus évoqué de plan global de dépistage. Concernant les 500 000 masques par jour réclamés par les établissements, le ministre a affirmé avoir entendu leur demande.
C'est la décision que j'ai prise immédiatement que de faire en sorte que nous puissions livrer l'équivalent de 500 000 masques par jour. Alors ensuite, il y a toujours ces éternels problèmes de logistique pour lesquels nous avons renforcé nos schémas de distribution, notamment j'ai demandé l'aide des départements.
Quant aux soins de santé de ces personnes fragiles, Olivier Véran a énuméré les mesures prises. Garantie d'un accès équitable aux soins, télémédecine, recours à la réserve sanitaire ou aux étudiants en médecine, fiche réflexe fournie aux 15, le service de régulation. Les aidants ne seront pas oubliés, a précisé Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées.
J'ai demandé à l'ensemble des professionnels, des établissements et services médico-sociaux, ainsi que du domicile, d'avoir une attention particulière aux besoins de répit des proches aidants qui peuvent être épuisés. Parmi les solutions possibles, et au-delà du relayage à domicile, il pourra notamment être proposé, après échange collégial, un accueil temporaire des proches aidés pour une période de 7 à 14 jours renouvelables dans un internat.
Désormais, c'est une cellule médico-sociale mise en place au sein de toutes les agences régionales de santé qui sera responsable de ces questions handicap et Covid-19.
Sophie Bécherel, le ministre de la Santé a promis, en tout cas il espère, 500 000 masques par jour pour le secteur médico-social. Ces masques qui continuent à faire débat, y compris dans la communauté scientifique. On parle cette fois des masques grand public ou alternatifs, dont le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a lui-même hier pour la première fois recommandé l'usage, comme l'ont fait aussi les autorités américaines. Le port d'un masque ne saurait pour autant faire oublier les indispensables gestes barrières. En gros, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas non plus l'assurance tout risque. Daniel Messager, alors, faut-il ou non porter un masque?
Que faut-il comprendre de cette communication, entre guillemets, autour du port du masque. Olivier Véran dit qu'il faut savoir réévaluer une doctrine. Est-ce que ce sera bien ou pas, les masques pour tout le monde? La discussion, dit-il, est en cours avec le conseil scientifique. Mais alors, ce serait utile de porter un masque? À ce stade, seules les personnes contaminées devaient le faire pour ne pas contaminer les autres. Mais faut-il croire que le masque serait protecteur pour soi-même? Le débat est maintenant ouvert, mais au fait, quel masque? La denrée est toujours aussi rare. Philippe Basset, le président de la Fédération syndicale des pharmaciens, s'attend maintenant à une demande encore plus importante.
J'entends le message qui incite la population à porter un masque. L'Académie de pharmacie, l'Académie de médecine, on dit ça également. C'est effectivement une bonne idée, sauf que des masques, il n'y en a pas. Nous n'en avons pas en officine. Ils sont réservés aux soignants, donc il n'y aura pas besoin de demander à son médecin de lui prescrire un masque, parce que même s'il le fait, eh bien, il n'y aura pas de masque pour les patients en officine, malheureusement.
Alors, faudrait-il avoir recours à des masques alternatifs? En gros, le masque qu'on fabrique soi-même. Attention, avertissent déjà des infectiologues. Ça dépend de la densité du tissu, de sa capacité à arrêter des micro-gouttelettes. Ça pourrait être une fausse barrière. Bref, on pourrait se croire protégé alors qu'on ne l'est pas vraiment.
Daniel Messager. Dans les hôpitaux, c'est toujours également la course contre la montre pour faire de la place aux nouveaux malades. 18 patients du Grand Est ont été ou vont être d'ici lundi transférés par hélicoptère ou avion dans des établissements d'Occitanie. En Ile-de-France, deux nouveaux TGV médicalisés partiront demain de Paris vers l'Ouest. Dans ce contexte, également gare aux utilisations hasardeuses des produits dangereux ou potentiellement toxiques. Les centres anti-poison ont rapporté de nombreux accidents le mois dernier, notamment liés à l'eau de Javel, qui ne doit pas servir par exemple à nettoyer les aliments. Rappel utile du docteur Wenico Carré, médecin détaché au centre anti-poison de Paris. Il est au téléphone de Faustine Calmel.
On se retrouve avec l'utilisation d'un produit corrosif et puis l'utilisation d'eau de Javel, mais qui est déjà incluse dans un mélange. C'est des produits tout prêts achetés dans le commerce qui peuvent contenir également de la soude caustique, par exemple. On a effectivement des gens qui nettoient leurs fruits et légumes avec de l'eau de Javel ou les mélanges dont j'ai parlé. Et on a des gens qui utilisent l'eau de Javel pure, là j'en ai une aujourd'hui, pour réaliser sa vaisselle à la maison sans utilisation de gants. Donc on arrive à des lésions cutanées qui peuvent être parfois sévères. Je dirais que c'est les conseils d'usage, bien conserver les produits dans leur emballage d'origine et de surtout pas transvaser ces produits dans des contenants qui sont pas initialement prévus à cet effet. Je pense aux bouteilles d'eau en plastique, puisqu'on peut se retrouver avec des cas d'ingestion de produits dangereux. Utiliser des éléments de protection tels que les gants et bien sûr bien ventiler son appartement.
Voilà, et attention aussi aux produits faits maison comme le gel hydroalcoolique. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte également sur les huiles essentielles que les femmes enceintes ou les asthmatiques doivent s'abstenir d'utiliser, d'autant qu'elles ne renforcent en aucun cas les défenses naturelles contre le Covid-19.
19h13 sur France Inter, c'est le journal d'Yves Decamp.
Plus de 700 morts supplémentaires au Royaume-Uni, c'est un nouveau record sur 24 heures. Parmi eux, un enfant de 5 ans. Un conseiller du gouvernement britannique évoque ce soir un possible maintien du confinement jusqu'à la fin mai. Demain, la reine s'adressera aux Britanniques à la télévision. Ce sera sa quatrième intervention solennelle seulement en 68 ans de règne. C'est dans ce contexte aujourd'hui, rien à voir avec l'épidémie, que les travaillistes ont tourné la page du socialisme radical en portant à leur tête le centriste et europhile Keir Starmer, qui succède donc à Jeremy Corbyn à la tête du Labour. En Espagne, pour revenir au coronavirus, 2 semaines de confinement supplémentaire. Le gouvernement de Pedro Sanchez annonce qu'il devra être prolongé jusqu'au 25 avril, le temps nécessaire au système de santé de se redresser, dit-il. L'Espagne, qui a encore enregistré plus de 800 décès ces dernières 24 heures, approchant ce soir les 12 000 morts, et l'inquiétude grandit encore, s'agissant notamment des maisons de retraite. Marie-Hélène Ballestero à Madrid.
La mortalité n'a cessé d'augmenter dans les maisons de retraite en Espagne et notamment à Madrid depuis le début de l'épidémie. Selon les chiffres avancés jeudi dernier par la présidente de la région Isabel Díaz Ayuso, au mois de mars, plus de 3000 personnes âgées sont décédées dans ces centres, c'est-à-dire le triple que d'habitude. Le quotidien El País va plus loin et avance des statistiques qui font froid dans le dos. Au début du mois de mars, plus de 52 000 personnes âgées vivaient dans les 475 maisons de retraite madrilènes. Or, près de 6% d'entre elles sont mortes. morte depuis. Une hécatombe pour les familles qui dénoncent une réponse trop lente de la part de l'exécutif régional. De leur côté, les syndicats et associations professionnelles réclament depuis des semaines des équipements de protection, des tests et des médecins qui puissent les aider à freiner l'avancée de l'épidémie dans ces maisons de retraite, devenues l'un des principaux foyers de contamination en Espagne. Des résidences débordées qui n'étaient pas préparées, comme personne dans ce pays, à une crise sanitaire sans précédent. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Un dernier chiffre pour la soirée à New York. L'État de New York, épicentre du coronavirus aux États-Unis, qui a enregistré aujourd'hui 630 décès, le pire bilan sur 24 heures. En sport, les championnats de foot iront-ils à leur terme? La question reste posée malgré l'ultimatum de l'UEFA. Les instances du foot européen ont menacé d'exclusion les pays qui seraient tentés, comme la Belgique, de mettre un terme à la saison. Mais c'est bien le Covid-19 qui décidera. Pour Bernard Caiazzo, président du syndicat des clubs de Ligue 1, tout dépendra bien sûr de la durée du confinement et de la façon dont on en sortira.
Je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur tout ça, ne pas faire d'effet d'annonce, ne pas prendre des positions qui sont trop tranchées. Je crois que celui qui commande, malheureusement, c'est ce satané virus. On n'a pas envie d'avoir 30 000 personnes au Stade de France qui se retrouvent dans la même situation que ce qui s'est passé dans certains stades, à Atalanta, Valence ou autres, qui ont été ensuite des foyers de virus. Il faut penser à la santé des joueurs, des femmes, de tous les Français, et se dire, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, on peut faire tirer des plans sur la comète, on va reprendre tel, ça ne sert à rien. Celui qui commande, c'est ce satané virus, ce maudit virus. Soit on considère qu'on a réussi à enrayer la pandémie, et dans ces cas-là, il y aura une possibilité pour jouer. Soit on considère qu'on n'y a pas réussi, dans ces cas-là, nous ne l'accepterons pas. Il faut se dire une chose. Rien ne doit passer avant la santé.
Le président du syndicat des clubs de Ligue 1 au téléphone de Cédric Guillou. Allez, confinement oblige, les modes de consommation forcément vont évoluer, notamment dans le domaine culturel, d'autant que depuis le 16 mars, les offres de lecture en ligne gratuites se sont multipliées. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir à tous.
Dans votre vie plus connectée que jamais, vous revenez sur cette évolution des usages qu'a pu vérifier Médiamétrie en auscultant les audiences internet où l'on voit qu'avant même le confinement, 28% des Français étaient déjà sur des applications ou sur des sites consacrés aux livres.
Cela veut dire que plus du quart des Français consultent des sites ou des réseaux de lecteurs et de lectrices, des critiques de livres ou d'écoute de livres audio. Ce n'est pas forcément de la lecture directement. Ces chiffres mesurent l'audience de février 2020, c'était donc avant le confinement. Écoutez Bertrand Krug, le responsable du département Internet chez Médiamétrie.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène est en progression avant même le confinement. Quand on regarde sur une année, on a 2,6 millions de Français supplémentaires qui se sont rendus sur ces sites et ces applications. L'accélération des usages sur les écrans mobiles bénéficie aussi à ces sites de lecture, que ce soit sur smartphone ou sur la tablette, c'est la capacité à offrir différents formats et différents supports de lecture tout au long de la journée.
Le top 10 de Médiamétrie comporte des opérateurs très différents, avec en tête le site Babelio, qui n'est pas un site ou une appli où l'on peut lire des livres, mais un réseau de lecteurs et un lieu de recommandation des nouveautés. Il fonctionne surtout sur la littérature contemporaine.
Et chez Babelio, depuis 13 ans, la progression est constante.
Aujourd'hui, Médiamétrie l'accrédite de 2,5 millions de visiteurs par mois et en ce moment plus que jamais, comme l'explique Pierre Frémaux, l'un des fondateurs de Babelio.
On a vu une augmentation des consultations de sites. On va dire que ça correspond à un bon dimanche de novembre tous les jours, quoi. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les lecteurs qui sont avides de recommandations font appel à Internet pour trouver des critiques et des sources de validation avant de faire leurs achats. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est clair.
Plus fort encore dans l'ordre des progressions, voilà ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée. Chez Isneo, la plateforme d'achat de bande dessinée en version numérique, on constate un doublement du chiffre d'affaires pour la troisième semaine du mois de mars par rapport à la même période en 2019. La BD part de loin car le numérique est une infime part de son marché, c'est vrai, mais les chiffres montrent bien que la crise du coronavirus vient renforcer une croissance importante qui était en cours depuis début 2020.
Christine Siméon, Ma vie connectée, confinée, à retrouver sur franceinter.fr, bien sûr, et tout de suite le téléphone sonne avec vous, Alexandra Ben Saïd.
C'était le journal d'Yves de Caen. Merci.